évangélique. Une émission qui vous est proposée par votre serviteur, avec aujourd'hui l'histoire de Jésus, de sa passion Pâques, pour les jeunes et pour les moins jeunes. De Simon le lépreux, il semble que tous les habitants de Béthanie se soient attroupés, agités, gesticulant, le verbe haut, les yeux brillants. Ils ne parlent que de ces deux aveugles guéris par Jésus tout récemment près de Jéricho, et surtout de Lazare appelé de l'Empire des Morts. Certes, on sait que Jésus a déjà ressuscité des morts, mais cela se passait au loin, en Galilée. Les derniers miracles se sont produits ici, en Judée. Toute la région en retentit. Non seulement les gens de Béthanie, mais ces foules qui s'acheminent vers Jérusalem, pour la Pâque toute proche. La fête se célébrera le dimanche 7 avril, dans une semaine exactement. Souvenez-vous, nous sommes en l'an 30 de notre ère. La porte s'ouvre, Jésus sort. Un grand cri jaillit de toutes les poitrines. Jésus, Jésus, Jésus. Et les apôtres l'aident à fendre les rangs serrés des hommes et des femmes. Jésus prend la route de Jérusalem. Les gens de Béthanie le suivent. Ils en sont venus à un tel degré d'exaltation que pas un seul ne songe à le quitter. Mais qu'est-ce donc que ces hommes et ces femmes qui, en sens inverse, accourent vers lui ? Les premiers arrivés se précipitent vers Jésus, se saisissant de ses mains pour les porter à leurs lèvres, embrassant les plis de son manteau. Et c'est le même cri, le même appel. Jésus, Jésus. Ici encore, il faut que les 12 interviennent. Ils font à Jésus un rempart de leur corps. Ils interrogent les nouveaux arrivants. Mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que voulez-vous? La réponse est, on ne peut plus simple, ces braves gens viennent de Jérusalem. Ils ont entendu parler de Lazare, les miracles de Jésus, et on leur en a parlé. On leur a dit qu'ils approchaient, Jésus et ses apôtres, et ils n'y ont plus tenu. Ils sont tous accourus à sa rencontre. À tous, comme toujours, Jésus fait bon visage, et tous, enveloppés par son regard, se sentent les bienheureux. Il reprend sa marche. Ceux de Béthanie, ceux de Jérusalem se mêlent pour l'escorter, fraternellement. Sur les traits de Jésus, ce que l'on découvre, c'est la certitude d'un homme assuré que son destin s'accomplit, ainsi qu'il en avait été décidé depuis le commencement du monde. Pour aller à Jérusalem, la route passe par le mont des Oliviers. Déjà, loin de là, on en devine les courbes. Tout à coup, voici que Jésus s'arrête. Aux apôtres étonnés, il montre quelques maisons, une centaine de mètres devant eux. C'est un mot du nom de Bethphagée, autrement dit, la maison du figuier. Il appelle à lui deux de ses disciples. « Allez à ce village qui est en face, leur dit-il, et en entrant, vous verrez une ânesse à l'attache, avec son ânon. Personne ne s'est encore assis dessus. Déliez-les, et si quelqu'un vous demande « Que faites-vous ? » Pourquoi détachez-vous ces bêtes ? Répondez, le Seigneur en a besoin, et aussitôt on vous les laissera emmener. Dans la Palestine de ce temps-là, l'âne est le compagnon familier de l'homme. Il s'agit d'une race haute et vigoureuse qui ne ressemble que de très loin aux petits ânes de nos jardins publics. Rares sont les familles juives qui n'en possèdent pas un ou plusieurs. Que feraient sans eux les paysans pour cultiver leurs champs, les marchands pour porter leurs charges, les voyageurs pour se rendre d'un point à l'autre ? Jésus, excellent marcheur, a toujours dédaigné d'enfourcher un de ses animaux. Les apôtres comprennent d'autant moins l'ordre qu'il vient de donner. Ils devraient se souvenir de ce que jadis annonçait le prophète Zacharie. « Voici que ton roi vient, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit de l'ânesse. » On ne désobéit jamais à Jésus. Les disciples s'en vont au village, trouvent la maison annoncée, là où Jésus l'avait dit. Voici l'âne l'ânesse et l'ânon. Ils s'en emparent et les conduisent à Jésus. Jésus enfourche l'ânon. Ceux qui viennent de Béthanie, ceux qui arrivent de Jérusalem, ont gravi avec lui le mont des Oliviers. Tout en bas se dessine Jérusalem, dans sa splendeur. Spectacle familier à Jésus depuis la fête des Tentes. On ne s'est arrêté qu'un instant. On s'est engagé sur la route qui descend vers Jérusalem. Jésus monte toujours l'ânon. Maintenant, ce sont des centaines de milliers de gens qui s'en viennent au-devant de lui. À mesure que l'on s'approche des murailles de la ville, l'enthousiasme soulève davantage cette foule qui grossit sans cesse. Les uns coupaient des branches pour en joncher le chemin, raconte l'évangéliste Luc. Les autres agitaient des palmes. Beaucoup étendaient leurs manteaux sur le passage. Transportés d'une vive allégresse, tous les disciples se mirent à chanter à pleine voix les louanges de Dieu. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Béni soit le règne de David, notre Père, qui va commencer. Béni soit le fils de David. » Ne soyez pas surpris de ces rameaux jetés sous les pieds d'un âne. Il s'agit d'une tradition très ancienne en Orient et qui a persisté jusqu'à une époque récente. L'historien Daniel Robbs a cité le témoignage d'un Anglais qui, dans la première partie du 19e siècle, passant par Bethléem, a vu arriver à sa rencontre des centaines d'hommes et de femmes. À son grand étonnement, ils se sont mis à étaler leurs vêtements à terre devant son cheval. Il a fini par comprendre qu'ils le suppliaient d'intercéder pour eux auprès du souverain dont ils dépendaient, dont ils avaient encouru la colère. Mais qu'importe. Un tel spectacle ne s'était jamais présenté aux yeux des habitants de Jérusalem. Un homme monté sur un âne. Une foule immense se pressant autour de lui, criant et chantant, agitant des palmes et le glorifiant. Ce souvenir sans égal, les chrétiens n'ont cessé depuis de le célébrer. Ils le font le dimanche des rameaux. Devant la porte colossale qui s'ouvre devant lui, la porte dorée, le cortège va se dissoudre, fatalement. Les rues de la capitale sont trop étroites, trop encombrées. D'ailleurs, la police ne tolère aucune manifestation populaire. Avant de pénétrer dans la ville, Jésus s'est arrêté pour considérer la cité du Dieu unique, celle où on l'avait emporté nouveau-né, celle où à 12 ans il avait harangué les docteurs, celle où il était si souvent revenu depuis. Ville de gloire, ville de foi, ville où il sait que l'attendent ceux qui ont juré sa perte. Et tout à coup, les apôtres le voient comme écrasé de désespoir. Luc nous dit, précision bouleversante, qu'un sanglot lui monte de la gorge. « Ô Jérusalem, si tu connaissais du moins en ce jour qui t'est donné ce qui te conserverait la paix, mais ces choses sont maintenant cachées à tes yeux. Viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'investiront de et te presseront de toutes parts. Ils te jetteront à terre, toi et tes enfants. Dans ton enceinte, ils ne laisseront pierre sur pierre parce que tu n'as pas su connaître le temps où tu fus visité. » Au milieu de la cohue et du vacarme qui s'en élève, peut-on entendre ces paroles ? Les apôtres les ont recueillis. Très tôt, ils en ont fait état. Cette sinistre prédiction s'est réalisée quand, en l'an 70 de notre ère, l'armée romaine, commandée par Titus, a pris l'assaut de Jérusalem, mettant la ville à sac et détruisant le temple qu'Hérode le Grand avait cru édifier pour l'éternité. Deux jours plus tôt, le vendredi 31 mars, le grand prêtre Caïphe a réuni chez lui les autorités religieuses. Le bruit né de la résurrection de Lazare, l'enthousiasme populaire qui en est résulté, rendait urgent que soit apportée une solution au problème Jésus. Autour de Caïphe, les voyez-vous assemblés, les membres du Sanhédrin, les docteurs de la loi, les pharisiens, les plus éminents des scribes. Jusque-là, les membres du Sanhédrin ont tergiversé. Ce n'était pas l'envie qui leur en manquait, mais ils n'ont pu parvenir à faire arrêter Jésus. Chaque fois, il est parti libre, a repris son enseignement et sans cesse a accru le nombre de ses disciples. Autour de Caïphe, les plaintes jaillissent, amères. Que ferons-nous ? Cet homme opère beaucoup de miracles. Si nous le laissons agir, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Tous se sont exprimés dans le même sens. Caïphe les a d'abord écoutés sans mot dire, puis il a pris la parole. « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple et la nation ne périssent pas. » Telle était l'ambiance qui régnait et le langage que l'on tenait alors que Jésus était encore éloigné de Jérusalem. Imaginez l'état d'esprit des autorités religieuses quand elles ont appris le dimanche que le faux prophète, l'agitateur, le provocateur avait de nouveau osé franchir les murs de Jérusalem et qu'il s'était tout droit, quelle impudence, rendu au temple. Dès lors, ils n'en doutent plus. Arrêter Jésus ne suffirait plus, il faut le faire périr. Un seul problème se pose encore à eux, il est d'importance. Les Romains interdisent aux Juifs de procéder à aucune exécution, et ils se réservent ce droit. Alors que faire ? La conclusion est vite trouvée. Il faut chercher le moyen de convaincre les Romains. Il en est un qui a toujours fait ses preuves, il faut leur démontrer que Jésus appelle les Juifs à la révolte contre l'empereur. Avec ce genre d'accusation, les Romains n'ont pas l'habitude de plaisanter. Si les Romains prennent au sérieux la dénonciation, on peut déjà prévoir le sort qui sera réservé aux coupables. C'est celui de toutes les résistances, de tous les opposants qui ont pris les armes contre l'occupant. La mise en croix. Comme chaque veille de Pâques, de nouveaux arrivants affluent à Jérusalem. Chaque maison regorge d'hôtes souhaités ou subis. Les auberges affichent complet, les propriétaires louent à prix d'or le plus exigu des réduits. Le moindre carré de jardin s'encombre de deux ou trois tentes. Et, comme à l'accoutumée, le flot des pèlerins se dirige vers le temple. Là, que trouve-t-on ? Eh bien, nous trouvons Jésus prêchant. Le lundi matin, il est revenu prendre sa place sous les portiques. Le triomphe de la veille, le peuple l'accablant, les cris et les chants, les rameaux agités, les manteaux jetés sous ses pas. Il semble avoir tout oublié. Il parle et on l'écoute. Et que dit-il ? Je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à un homme qui en produira les fruits. Les princes des prêtres et les pharisiens, écrit Matthieu, qui étaient là, comprirent que Jésus parlait d'eux. D'heure en heure, tout ce que dit, tout ce que fait Jésus est rapporté au grand prêtre Caïphe. La même question obsède toujours les autorités religieuses. Comment agir contre Jésus ? L'arrêter au temple ? Il est censé s'entourer des disciples. Hors du temple, dès qu'il en sort, il quitte la ville et on ne sait jamais où il va. Une seule solution, le prendre publiquement en flagrant délit de violation de la loi. Quand le mercredi, Jésus arrive au temple, il trouve mêlé à son auditoire habituel les princes des prêtres, les anciens, mais aussi des pharisiens et même des envoyés d'Hérode, sans compter les Sadducéens. Ah, je ne vous ai pas encore parlé des Sadducéens. Ce sont des Juifs qui s'écartent sur certains points des croyances pratiquées par les autres. Par exemple, ils refusent d'admettre l'existence des anges. On les craint car ils sont puissants et riches. Comme l'administration du temple dépend d'eux, ils encaissent les contributions des fidèles. De plus, pour protéger leurs richesses, ils recherchent et obtiennent l'amitié des Romains. Si tous ces gens se sont rassemblés, ce n'est évidemment pas par hasard. En allant prendre sa place habituelle, Jésus sait qu'il va faire face à une formidable alliance de tous ses ennemis. Ceux qui tentent de porter les premiers coups, ce sont les prêtres. L'un d'eux s'avance, agressif. « Au nom de qui Jésus s'est-il permis de chasser les marchands du temple ?» Le piège est aisé à discerner. Si Jésus répond que Dieu le lui a ordonné, ou qu'il a agi parce qu'il est lui-même Dieu, il sera convaincu de blasphème. S'il ne trouve rien à répondre, il perdra la face vis-à-vis de ses disciples. Or, à la question, Jésus répond par une autre question. « Le baptême de Jean-Baptiste, dit-il, d'où venait-il ? du ciel ou des hommes ? Si vous me répondez, je répondrai moi-même. » Le résultat, les prêtres restent muets. Et Jésus dit : « Alors, je ne vous répondrai pas. »